Gloire à Dieu, nous continuons le psaume 119 dans notre série Béréen l'explorateur. Nous en sommes au livre de psaumes, mais le livre de psaumes, il est immense et il a un chapitre aussi immense, le chapitre 119. Comme nous l'avions dit précédemment, c'est le plus long chapitre des livres. Et un psaume acrostiche, ça veut dire que c'était composé en suivant les lettres de l'alphabet hébreu. Et ce qui est beau encore, c'est que voilà, dans chacune de ces parties, les phrases commencent par cette même lettre. Et nous avons fait la lettre Samec. Jusqu'au verset 120, nous passons à la lettre Aïn, donc le verset 121.
Verset 121. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence, pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge.
Voilà, donc ça finit toujours, hein, chacune de ces parties, par une déclaration d'amour pour les Écritures, pour la parole de Dieu. Et au début, il y a un détail qui est donné sur les effets de cette parole. Et là, quand on obéit, on se met en quelque sorte sous le régime de Dieu. Les prochains qui payent leurs impôts, qui font ce qu'il faut. Ils ne s'inquiètent pas. Ils savent que si la loi est. Parce que tout est à jour dans leur vie. Ils n'ont. Aucune dette, il y a eu accident peut-être, mais eux ils étaient. La personne sait que commandement, et à partir de ce moment-là, elle est. Donc c'est comme ça qu'on devrait aussi réagir par rapport à la parole de Dieu. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Donc, il compare ça à cela. Il compare ça à ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un observe la loi, respecte les choses, il y a la protection du système qui est aussi sur lui. Voilà, c'est. Nous devons comprendre que le monde entier, comme on a vu dans le livre d'Hébreux 11 à 3, 11 versets, le monde est sous le régime de la parole. Donc du coup, quand toi tu obéis à cette loi-là qui est la parole, tu profites aussi de la protection du régime. Voilà, et il dit, ne me laisse pas opprimer par après ton salut. Donc, tant qu'on obéit à la parole de Dieu, on est couvert, on est sous sa protection. Voilà ce que nous disent ce passage-là qu'on vient de lire. Voilà. Voilà ce que nous disent ce passage-là. On va prendre la lettre P, donc le verset 129.
Verset 129. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi.
Alors, mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. C'est la tristesse quand on est du juste, hein, quand on est dans un endroit où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de respect de la loi, où c'est le désordre. Le juste a besoin de l'ordre. Il a besoin que les choses soient claires, soient pures, pour qu'il se sente bien. Et quand on vit comme Lot, il est dit de Lot que voilà, il était vraiment perturbé à Sodome et à Sodome, lui qui était juste de voir tout ce qui s'y passait, il était vraiment mal à l'aise. Et c'est ce qu'il dit là, mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Mais le verset 129 est très beau. Tes préceptes sont admirables aussi, mon âme les observe. Voilà, il y a un côté, comme on a dit précédemment, il y a un côté merveilleux dans la lecture de la parole, dans l'obéissance à la parole. Ce n'est pas... Il y a des gens qui prennent la parole juste comme une sorte de code civil, code pénal. Ce n'est pas du tout ça. C'est vrai qu'il y a des commandements, il y a des ordres, il y a des interdictions même, mais ce n'est pas que ça. Justement, le psaume 119 est en train de nous fournir une arborescence de tout ce qui peut, tout ce que peut renfermer la parole de Dieu. Il dit, mais les préceptes sont admirables. Et il dit au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, il y a un côté éclairé. Comprendre ce qui se passe sur la terre. Recevoir de l'intelligence. Agir comme il faut. La parole apaise. La parole, nous, on a vu beaucoup de gens proches du divorce, mais il suffit qu'il y ait des frères ou sœurs qui les prennent sérieusement en charge avec la parole de Dieu. Les gens se réconcilient et revivent ensemble comme il faut. On a vu des gens proches de prendre de mauvaises décisions, mais grâce à la parole, ils voient clair. Ils reçoivent une intelligence qui permet de résoudre les problèmes d'incompréhension, les problèmes de peur. Ça donne de l'intelligence aux gens qui sont simples. Parce que quand tu es compliqué, effectivement, la parole va être un frein pour toi. Parce que ça, il est écrit, le Seigneur résiste aux orgueilleux. Quand on est compliqué, la parole va être aussi compliquée pour nous. Mais quand on est simple, on en tire les leçons facilement, sans vouloir tout comprendre, mais on reçoit ce qui est bon pour nous. Tes préceptes sont admirables. Donc il y a un côté merveilleux dans la parole de Dieu. Quand on la lit, on comprend des choses, on est heureux. Et du coup, ça pousse à en apprendre davantage, à comprendre davantage. Et verset 133, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Voilà, lorsque on est dans cette vénération de la parole de Dieu, on réalise combien c'est grand. On aime, on lit, ça nous édifie et on échappe aux oppresseurs. On échappe. Parce que celui qui est dans la parole va s'attendre à la justice de Dieu et va vivre cette justice-là parce que Dieu est vrai. Donc, allons chercher de l'intelligence dans la parole. Vous savez, dans le milieu chrétien, il y a certains qui ne se satisfont pas des Écritures, qui pensent toujours qu'il faut aller chercher ailleurs pour compléter, recevoir un certain éclairage des choses. C'est le contraire. C'est plutôt tout ce qu'on trouve ailleurs qui a besoin d'un éclairage par la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu fais comme science, tout ce que tu fais comme technologie, finalement, quand tu reviens à la parole, tu comprends mieux ce que tu fais. Comme travail, comme science, tu es cordonnier, tu es berger, tu es ingénieur. Finalement, quand tu reprends la parole, c'est là que tu comprends mieux ce que tu fais, même comme travail. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté ça. Je me souviens même des histoires de fin du monde. Il y a un ingénieur qui a bien compris les choses. C'est à l'église qu'il a compris les choses. Donc un jour, il arrive à l'église. Le pasteur est en train de prêcher et il explique l'histoire de la marque de la bête 666, etc. etc., etc. Finalement, le monsieur qui, lui, dans son boulot d'informaticien, avait l'habitude de manipuler ce genre de notions, était émerveillé de voir que ça se trouve dans la Bible et de voir l'application finale. C'est lui qui, après, va dire aux chrétiens, aux pasteurs, mais ce sont des choses que moi je fais à mon travail, ce sont des préparations qu'on fait à notre travail. Il a vu clair quand il a écouté la parole de Dieu. Pourtant, il faisait ça depuis un moment. Au travail, les histoires de code-barres, les histoires, ce qui finit aujourd'hui par des QR codes, ce qui finira par la marque de la bête. Lui, il vivait déjà ça dans son travail d'ingénieur en informatique. Aujourd'hui, on vous dira, beaucoup de choses ont des termes liés à Apocalypse. Il y a je ne sais pas si je dois appeler ça logiciel ou bien application, oui, logiciel, Snapdragon, tout ça. Mais c'est des choses qui sont incontournables dans l'informatique aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de noms en informatique profonde qui sont reliés au livre d'Apocalypse. On voit bien que tout ça nous amène vers la... Tout ça nous montre qu'on est vers la fin. Et cet éclairage-là vient quand tu lis la Bible. Mais quand tu fais tes mathématiques, tu es comme emprisonné dans ton monde, tu ne vois pas clair. C'est la Bible qui éclaire les autres sciences, ce n'est pas l'inverse. Nous continuons la lettre Sadi, verset 137.
Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive.
Amen, amen. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Ça veut dire quoi? Aide-moi vraiment à comprendre que ta parole, c'est ça la vérité, et que je m'applique à la lire et à la vivre. C'est ça qui me donnera la vraie vie. Parce qu'on est des humains. On peut te perturber par le fait que tu t'accroches à la vérité, mais c'est les mauvais qui semblent gagner, qui semblent avancer, qui semblent produire des résultats. Ça peut déstabiliser. Et là, il nous dit, non, soyons tranquilles, Dieu est juste. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Ta parole est la vérité, ce qu'elle dit est vrai. On peut être déstabilisé par des phrases du genre, ah oui, mais comment du temps du déluge, Dieu a quand même
fait pleuvoir même sur des enfants, quoi. Il y a des enfants qui ont été inondés, noyés. Oui, mais dans tel passage de l'Ancien Testament, on tue même des enfants. Beaucoup de choses perturbent certains chrétiens comme ça, parce qu'ils réfléchissent à la manière des hommes. Mais quand tu plonges dans la sagesse divine, tu diras, comme le psalmiste, donne-moi de l'intelligence. Voilà. L'intelligence divine te fera saisir sa parole d'une autre manière, comme ce qu'elle est vraiment, une parole de vérité et de justice. Elle est vraie, tes jugements sont équitables, tu fondes tes préceptes sur la justice. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait, même si ça nous paraît un peu parfois difficile à comprendre ses positions, ses décisions, mais cette parole nous rassure, Dieu est juste. Il sait ce qu'il fait. Quand des enfants sont devenus orphelins, Dieu est juste. Il sait ce qu'il fait. Ses jugements sont équitables. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par ce genre de choses, ni par le fait que les voies du mal semblent produire de grands résultats. Voilà. Le Seigneur manifestera et sa fidélité. Verset 138, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. En définitive, c'est la parole de Dieu qui va l'emporter. Il y a des passages de vie dans le temps qui semblent donner l'avantage à la fausseté, au mensonge, mais en définitive, c'est toujours la vérité qui l'emporte. Donc à la fin, c'est établi que Dieu a toujours raison, au point qu'il dit finalement... Tes commandements font mes délices. Verset 143, la détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Ils sont la réponse face à la détresse et l'angoisse. Donc face à la détresse et l'angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la parole. Voilà. Mais il y a une réalité qu'on retrouve dans 139. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Et on l'a vu dans la partie précédente, ça fait mal de voir que les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils font autre chose. Ça fait très très mal de voir ce que moi j'appelle des pertes. C'est des pertes quand on voit quelqu'un qui s'enrichit et comme le Michael Schumacher, il s'est enrichi, il n'a même pas 45, quand même pas, je crois, 50 ans, mais à cause d'une indiscipline par rapport à une piste de ski, tu te retrouves comme un légume, tu perds tout. Voilà, or, il avait un âge parfait, avec une position parfaite dans la société, mais voilà, quand les gens oublie la parole de Dieu, ils ne mettent pas Dieu en avant. Ça fait mal de voir comment ils finissent. Et là, par exemple, on m'a encore envoyé une vidéo, une fois de plus, abominable, où le prétendu homme de Dieu, pendant qu'il y a même des chants sur Jésus qui passent, c'est ça qui est grave. Bien-aimé, tout ça nous fait comprendre pourquoi un jour l'enfer existera. C'est des comportements exagérés. C'est-à-dire que les gens, lui, il mange. Et il essuie. Il s'essuie, donc, au lieu de s'essuyer avec un Kleenex, il s'essuie sur la personne qui passe. C'est ça l'imposition des mains. Donc, pendant qu'il mange, il lèche son doigt. Ou bien il a encore de l'huile sur ses mains. Allez, la personne passe, il lui fait une sorte de... Comme les catholiques font, là, j'ai oublié comment... Il signe sur la personne, et une autre personne... Et voilà, les gens font une queue, ils passent... Lui, il mange. quand tu vois ça, mais tu sais, mais t'as envie de te transformer en un ange pour aller détruire, faire le scandale. Mais voilà, les gens passent. Ce qui dit, mais mon zèle me consume. Tu as la sensation de consumer. C'est pas possible. Mais bon, on nous dit que tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Dieu est fidèle. Un jour, sa justice sera clairement manifeste. Soyons patients, continuons. Il est écrit, verset 140, ta parole est entièrement éprouvée. La parole de Dieu a déjà fait ses preuves dans le passé. Il y a eu Sodome et Gomorre, il y a eu le jugement de Dieu. Il y a eu la venue de Christ qui avait été tant promis. Voilà, donc nous pensons que le reste aussi va s'accomplir. Persévérons. Nous passons à la lettre Kof. Psaume 140, verset 145.
Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours.
Amen, amen. Donc, ces commandements sont établis pour toujours. Elles sont solides, c'est des colonnes dans son temple. On peut faire confiance en la parole de Dieu. Et là, il dit que c'est la parole qui va nous sauver, nous défendre. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Donc c'est sa parole qui maintenant va nous sauver et nous devons nous accrocher à elle. Si nous voulons trouver le salut, nous voulons trouver la protection. Voilà. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, sauve-moi. La parole apporte le salut lorsque on croit. On prend cette parole, on cherche la solution à notre problème, on va la trouver dedans. Je vois par exemple, je prends l'exemple du temps où ils étaient en train de chercher où était né le Messie, les mages, quand ils sont arrivés, ils ont dit, on a vu l'étoile. Et ils ont pensé peut-être que c'était à Jérusalem, mais quand les sages juifs ont pris le problème en main, ils ont consulté la parole. En consultant la parole, ils ont vu que c'était écrit, c'est à Bethléem. Vous voyez, quelque chose comme ça qui paraît n'avoir... Hein, vous savez, c'est pour les mages, c'était une question astronomique. C'était une question scientifique. On voit une étoile bouger, on arrive. Bon, ils essaient d'étudier à partir de la position d'étoile où est-ce que ça peut être exactement. Pour eux, c'était une question astronomique, scientifique, mais... Tout est dans la parole. Quand ils ont pris la parole, la réponse était dedans. Bethléem. Réponse beaucoup plus claire que l'astronomie. Voilà. Nous devons comprendre que les réponses les plus claires, on les recevra dans la parole. Donc c'est ça qui donne son caractère de sauver. Voilà. Ça nous sauve de toute forme de situation. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Donc quand on est dans la vérité, tous ceux qui s'approchent pour le crime, ils finiront par fuir. Ils ne supporteront pas la vérité. Demeurons dans la vérité. Beaucoup de chrétiens prennent pour habitude, malheureusement, de réagir charnellement aux attaques. de contre-attaquer humainement. Or, il suffit de demeurer dans la vérité. La vérité te protégera, te défendra. On va voir ça même dans la prochaine partie. C'est la vérité qui délivre. Et les gens mal intentionnés finiront par fuir face à la lumière de la vérité. Restons fermes dans la vérité et c'est ça qui fera fuir les gens mal intentionnés. Nous continuons avec la lettre Resh, verset 153.
Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances, Éternel, et rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles.
Amen, amen. Voilà, le fondement de ta parole est la vérité. Donc, on voit au verset 154, « Défends ma cause et rachète-moi. Vois ma misère, verset 153, et délivre-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. » Vous savez, la parole de Dieu contient toute une multitude de promesses, de délivrance, de protection. Et elle est vraiment un refuge. Regarde ma misère et en fonction de ta parole, rends-moi la vie. Voilà. Ta parole me promet ceci, cela. Bien-aimé, il y a même des chèques en blanc dans la parole. Quand c'est écrit, tout ce que vous demanderez, je vous donnerai. Jean 14, 12 à 14. Il dit au verset 14, « Ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 16, 24, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. » C'est des chèques en blanc. On ne vous donne pas une limite dans la demande. Du coup, bien-aimé, quel que soit le problème qu'on peut rencontrer, ne suivons pas la voie du misérabilisme. Commencez à se plaindre sur son sort. Élevez les souffrances. Glorifiez les difficultés. Non. Les difficultés sont déjà là. Elles font déjà mal. Ne leur donnons pas en plus de l'adoration ou de la louange. Déjà qu'elles nous font mal, ces difficultés. Il faut les attaquer. Récupérer la parole. Regardez les promesses. Qu'est-ce que ça dit? Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Voilà. Tu dis, vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Voilà. Donc c'est lié. Ces délivrances-là sont décrites dans la loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. On utilise la parole. On rappelle au Seigneur, on dit, mais voilà tes promesses. Rends-moi la vie parce que là, je suis dépassé, je suis au bout du rouleau. Accomplis tes promesses. Défends-moi et sauve-moi. Et une fois de plus, on parle aussi des gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, mes persécuteurs, et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Finalement, ces gens-là qui n'observent pas la parole de Dieu, c'est vrai qu'ils blessent les gens qui l'observent, mais ils ne doivent pas être l'occasion pour nous de nous éloigner de la parole. Parce que si on s'éloigne de la parole, c'est là qu'on leur donne vraiment la force. Nous devons continuer à nous attacher à la parole, peu importe ce qu'il arrive, peu importe le nombre de défaites qu'on peut avoir dans certaines batailles, tu te relèves, tu dis « Seigneur, rends-moi la vie ». Dans ce passage-là, ce terme-là a été cité, je crois, trois fois au moins. « Rends-moi la vie selon ta bonté ». rends-moi la vie, c'est-à-dire utilise, accomplis tes promesses qui sont dans ta parole en ma faveur, car toutes tes lois, les lois de ta justice sont éternelles. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit et qui s'est accompli autrefois peut s'accomplir aujourd'hui. Soyons accrochés à la parole. Récupérons ça dans des moments de misère, de détresse, et demandons à ce que le Seigneur nous rende la vie, nous redonne de l'espérance, de l'assurance. C'est ce que ont fait les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 4, quand ils ont été fouettés, ils ont fait à cause de Jésus, ils ont fait une prière, ils ont dit Seigneur, regarde tout ce que les gens font contre le nom de Jésus-Christ. Alors nous te demandons de nous donner de l'assurance afin que nous prêchions le nom de Jésus et que s'accomplissent des prodiges et des signes, que les gens réalisent, rends-nous la vie, parce que il y a les fouets, tout ça, ça nous déstabilise, les prisons, mais toi rends-nous la vie, que tes promesses s'accomplissent, qu'on prêche la parole, que les gens soient touchés et que les signes et les prodiges s'accomplissent. Il est écrit que quand ils ont fait cette prière, les murs ont tremblé. Voilà. Vous savez, notre problème à notre époque, c'est qu'on a beaucoup trop de fausses solutions parallèles. On a beaucoup de possibilités. Bien sûr, des fausses possibilités d'échapper au problème. À cause de la multiplication de la connaissance, il y a plusieurs options. Et on a du mal à cause de cela à crier de tout notre cœur à Dieu, à considérer la parole fortement comme étant la puissance qui peut nous délivrer, parce qu'il y a d'autres opportunités. Mais ces gens-là, à leur époque, ils étaient vraiment démunis. Il ne leur restait que Dieu. Que Dieu. Du coup, ils invoquaient vraiment la parole de Dieu avec toute la détresse possible quand le malheureux crie. Mais nous, on fait appel à la parole tout en ayant dans le cerveau voilà, d'autres solutions qui n'en sont pas, hein, mais qui se présentent comme telles. On vit une époque où il y en a beaucoup de ce genre de fausses solutions. Et du coup, quand on invoque Dieu, c'est léger. Comme s'il y a toujours un recours. Ailleurs, quand Jean Schwab a invoqué le Seigneur au point que le Seigneur lui est apparu, c'est parce qu'il a entendu le médecin qui dit « ben, je signe l'acte de décès à l'avance, car cet homme ne passera pas cette nuit. » Quand il entend ça, il ne lui reste que quoi? Parce que normalement, l'hôpital, c'est pour quoi? L'hôpital, c'est pour qu'on soit guéri. L'hôpital, c'est pour qu'on s'en sorte. Maintenant, la personne qui est comme ta solution en ce moment-là, elle avoue qu'elle ne peut plus rien. Et d'ailleurs, elle te prophétise la mort dans quelques heures. Il ne te reste plus que qui? Que Dieu. Voilà. Aucun membre de famille ne peut quelque chose. L'hôpital qui était la solution humaine, ben, te prophétise la mort. Alors, il a dit, j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai crié à Dieu. J'ai dit à Dieu, hein, vous savez, ça fait partie d'un des psaumes, hein, ce ne sont pas les morts qui vont te célébrer, ce sont les vivants. Quand il a crié comme ça, c'est là que Jésus entre dans sa chambre et le guérit complètement. Ce qui nous manque, c'est la profondeur du cri. Qu'on exprime à Dieu, qu'on n'a que lui comme solution. même si notre intelligence nous propose quatre ou cinq autres chemins, mais nous, quand on est face à Dieu, on dit, oh, je n'ai que toi. Fais quelque chose, parce que sinon, je suis fini. C'est ça qui nous manque, afin que nous vivions complètement la parole de Dieu. Il dit, vois ma misère et délivre-moi, il n'y a que toi. Rends-moi la vie, il n'y a que toi. Nous continuons la lettre Shin ou Sin. Oui.
Il y a une question internet. Comment expliquer que des chrétiens étudient la parole, entre parenthèses, comme Calvin par exemple, et qu'il y a des interprétations différentes de la parole sur les sujets comme le salut, l'enlèvement, etc.
Il n'y a pas que Calvin. Il y a, comme j'ai dit, j'ai fait la visite du musée du protestantisme à Genève. J'étais dépassé par le nombre de doctrines. Environ 50 ans, puisqu'ils étaient tous vivants à l'époque, donc je crois, dans les 30 ans à peine après la sortie du catholicisme, on penserait que les divisions sont venues un siècle plus tard. J'étais surpris par la pluralité de conceptions sur tout un tas de sujets. Quand j'ai fait cette visite-là, j'étais déçu de cette visite, enfin déçu, pas de cette visite, mais déçu par ce que j'ai vu. J'ai compris une chose, il faut être simple avec Dieu. Et on est petit, même si tu as Bac plus 40, on est petit. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, quand... Avant, moi, j'expliquais aussi hein, beaucoup de choses sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'expliquais. Mais l'âge, tout ça, fait qu'aujourd'hui, je m'incline devant la parole. Les musulmans qui disent « Ah, mais ouais, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça !» Je leur dis, c'est lui-même qui se présente comme ça. Mais, comme en même temps, il fait ses preuves, c'est-à-dire que quand il se présente comme le Père, il fait ses preuves de Père. Le Fils, il fait ses preuves de Fils. Il fait ses preuves dans tout ça. Je ne peux pas vous donner une explication rationnelle, moi-même j'en ai pas. Mais il se présente comme ça et il fait ses preuves que c'est lui qui est Dieu. Donc moi, je l'accepte tel qu'il est. Voilà, mais je ne comprends pas tout. Mais c'est lui-même qui se présente comme ça. Et c'est ce qui a manqué, et c'est ce qui manque aux chrétiens, c'est de laisser ce qui est à Dieu, et de se contenter de ce que l'homme peut manger. Et bon, lui, il s'est présenté comme ça. Dans beaucoup de discussions avec les musulmans aujourd'hui, je donne maintenant les versets bibliques. Et quand ils veulent aller trop loin, je dis, écoutez, c'est lui qui a dit ça. Voilà. C'est lui qui a dit ça. Si vous voulez en savoir plus, demandez-lui. Mais moi, je crois en ça parce qu'il a fait les preuves qu'il est digne de confiance. Et donc, quand il dit ça, moi, j'accepte. Voilà. Et à vouloir tout expliquer et tout comprendre, c'est ça qui a créé cette prolifération de doctrines. Et d'ailleurs, on a commencé un séminaire. On a fait déjà deux. C'est une trilogie. Il y a le premier, c'était la force de la communauté à la Baule. Le deuxième, là, on a fait, c'est l'environnement chrétien. Et le dernier, ça sera la vie des groupes chrétiens. Voilà. Et dans ce dernier, on va expliquer que dans la vie des groupes chrétiens, on doit se contenter de la parole qui construit, qui édifie, et laisser les choses complexes aux gens qui sont appelés pour ça. Il faut sauver les âmes, il faut les amener au ciel, il faut sauver les... Il y en a qui sont dans l'adultère, il y a d'autres qui veulent divorcer, mais on va pas commencer à aller polémiquer sur la date du retour du Seigneur. Est-ce que c'est en septembre ou en mai, ou bien quand est-ce qu'il est né exactement? Non. Voilà, il faut savoir manger ce qui est bon pour notre avenir. Donc, on va insister sur la parole qui édifie, qui sauve, pour que les groupes avancent, parce que sinon, Satan, comme il a fait à la première église, il peut nous distraire. Voilà, vous voyez, comme je vous ai dit, le protestantisme était censé retrouver la vérité, mais il y a tellement eu... D'ailleurs, ça fait partie des choses qui sont brandies par les catholiques pour dire, d'accord, la réforme protestante, 40 000 doctrines. Voilà. Ils se moquent en disant, il y a 40 000 doctrines. Voilà, c'est ça. Ils disent, mais chez nous, les catholiques, c'est une seule voix. Hein. Regardez là, vous dites la vérité, mais il y a 40 000. On fait comment alors? Voilà. Et ça fait partie de moqueries du catholicisme face aux protestants, c'est de dire, ben voilà, depuis que vous êtes sortis de chez nous, vous avez combien? 40 000 doctrines. Bon, c'est vrai que c'est faux que c'est 40 000, mais c'est une façon de dire. Mais effectivement, les gens, en corrigeant le catholicisme, ils ont voulu créer leur truc. Non, 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 non. On doit corriger pour revenir à Jésus et à la simplicité de la parole, non pas créer encore quelque chose de complexe. Voilà, c'est tout. Oui ?
Tout à l'heure, quand on parlait des voies de recours, ça arrive que quand on prie pour demander quelque chose à Dieu, pour lui demander d'intervenir dans une situation, on imagine une solution plutôt terrestre. Quelle posture il faut adopter alors ? Parce que, je prends un exemple, si par exemple on prie pour que Dieu intervienne dans une situation financière ou pourvoie un tel besoin financièrement, et qu'on a une idée en tête, on se dit « Ah oui, mais si je remplis tel dossier à la CAF ou si je demande à un tel, je vais pouvoir avoir ça. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut refuser ce genre de recours complètement et ne rien faire en laissant Dieu agir ou...
Non, il faut juste qu'au moment où on prie, on oublie le reste. C'est juste ça, c'est la prière. Pendant qu'on prie, on oublie le frère qui habite à 50 mètres, qui est très riche. On oublie, voilà, donc on oublie tout ça. Puisque moi, je peux vous dire que combien de surprises n'ai-je pas eues. C'est-à-dire que la délivrance financière n'est pas venue de l'endroit probable auquel j'aurais pensé, mais d'ailleurs, ou parfois par surprise, sans. Voilà. La règle, c'est quand on prie, on pense qu'à Dieu seul, à lui seul. Voilà. Et puis, si après les idées viennent, ça c'est autre chose. Mais pendant la prière, tu parles à Dieu comme étant seule la solution à ton problème.
Et du coup, avec ces idées-là, alors qui pourraient venir après de solutions terrestres, est-ce que ces solutions-là, comment on les considère du coup ?
Si elles n'entravent pas notre foi ou bien les façons de faire du Seigneur, on peut les aborder. Mais s'il y a une petite tache, on sent que ça va entacher peut-être notre foi, ça va tacher sur les procédures du Seigneur. Donc on tient bon, on s'attend au Seigneur.
Oui, ma question c'est par rapport au chèque en blanc concernant les versets, tout ce que vous demanderez en mon nom je vous donne, et jusque là vous n'avez rien demandé. Alors, si j'entends la logique de la chose, c'est que le chrétien, il doit toujours être dans la détresse. Au moment où il est dans la détresse, qu'il doit utiliser ses chèques en blanc, demander la délivrance au Seigneur. Ou, par exemple, quand j'ai un chèque en blanc dans la vie courante, je peux me permettre d'aller acheter des choses de loisir pour mon confort et tout ça. Donc, si je n'ai pas de problème... Je peux aussi demander des choses en tant que chrétien qui suit parfaitement les statuts de Dieu. Ben, Seigneur Jésus, tu m'as dit tout ce que je demande en ton nom, je l'ai. Ben, je veux une grande maison pour mes enfants.
Une Mercedes blanche. Non. Ben, mais il n'y a pas de problème.
Mais pourquoi j'ai comme l'impression que les gens... Ils attendent toujours qu'ils sont vraiment dans la détresse. Ils demandent le secours pour être libérés de cette situation.
Parce qu'avant la détresse, ils s'en sortent. Alors qu'ils peuvent vouloir plus. Voilà. Et que si Dieu voit qu'il y a la convoitise, que lui-même t'arrête. Voilà. Mais on est libre, c'est des chèques en blanc. Tout ce que vous demandez, Eh ben, il a dit tout ce que je demande. Moi, je lui demande. Je ne crois pas que, aux noces de Cana, les chrétiens d'aujourd'hui allaient demander à Jésus de régler le problème du vin. Ils allaient dire, ah, mais c'est des choses du monde. Voilà, tout ça, c'est... Comme ça manque, c'est bien. Comme ça, on boit le jus. Voilà. Mais ils allaient réfléchir comme ça. Oh, ce sont des choses de la terre. Il manque du vin. D'ailleurs, ça tombe bien. Comme ça, la fête s'arrête. Voilà. Tu vois, donc c'est que beaucoup de chrétiens pensent à Dieu comme un policier qui est là. Qui... Non. Non, c'est notre papa. Et donc on dit ce dont on a envie. Lui, maintenant, s'il estime que dans notre expression, au fond, il y a une mauvaise chose, il arrêtera et nous dira pourquoi.
Maintenant, voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que les faux prédicateurs, ils utilisent ces versets pour prêcher l'évangile de la prospérité, puisqu'ils tirent ça de la Bible, et il n'y a pas une limite à proprement parler, puisque de ce que je lis là, il n'y a pas une limite. Ils peuvent prêcher uniquement la prospérité, et les chrétiens, ils verront que voilà, ils sont dans ce qu'ils disent là, ne contredit pas la parole, et ils vont les suivre.
Oui, mais là où ça contredit, c'est que le Seigneur dit quand même que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. Voilà, et le reste viendra. Donc, quand maintenant on commence à t'exhorter à faire de la réussite et de la prospérité terrestre ton champ de recherche, c'est ça qui n'est pas bon avec ces faux prédicateurs-là. Nous, on dit tout simplement ce dont tu as envie, tu demandes à Dieu, mais dans ta vie, tes objectifs doivent être les objectifs célestes. Voilà. Mais à un moment donné, si tu as envie de manger du poulet fumé, ben, tu demandes à Dieu. Alors que tu te retrouves en Ukraine, mais tu demandes quand même le poulet fumé. Voilà. C'est ça quoi. Nous passons à Chine pour d'autres.
161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi.
Amen, amen. Donc, il finit toujours, comme on a dit, hein, par des paroles vraiment d'amour, d'attachement à la parole de Dieu. Après avoir donné un aspect, l'aspect au début, là, c'est le fait qu'il compare la parole de Dieu au conseil ou bien à la logique des grands de ce monde. Les grands de ce monde, des princes, c'est des princes qui me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Voilà, les princes, comme on entend aujourd'hui, les Soros, les Klaus Schwab, des gens qui vous disent, comme les Sarkozy, le nouvel ordre mondial est là et personne ne pourra résister à ça. Voilà, ça, ce sont les princes qui semblent prendre de l'autorité sur l'humanité. Il dit, mais tout ça, ça ne me fait pas trembler. Ta parole est au-dessus de tout ça. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et il dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Parce que les princes, qu'est-ce qu'ils promettent? Un grand butin. Si tu entres dans la franc-maçonnerie, si tu entres dans notre logique, ben, les portes te seront ouvertes. Plus besoin de visa pour aller dans certains endroits. Aujourd'hui, ils ont le système de... Vous savez, quand on va dans les campings, on nous met une sorte de bracelet, là. Eh bien, ça existe aujourd'hui dans le monde de ces grands-là. Quand il arrive quelque part, il montre, il passe. Il passe. Et c'est ce que promettent les princes. Si tu entres dans notre société secrète, voilà les avantages qui t'attendent, voilà les postes qui t'attendent. Mais il lui dit, non, mon grand butin en moi, parce que ces princes-là promettent des grands butins, mon grand butin en moi. C'est la parole. C'est vrai que le diable va rigoler, dire, ah oui, et qu'est-ce que t'as quoi dans ta vie? Qu'est-ce que t'as? Mais j'ai la parole. Le frère Paul, qu'est-ce qu'il dit? On va lire ça dans 2 Corinthiens 6 ou 11. Je crois que c'est 6. Hein? 2 Corinthiens 6. De toute façon, si on ne trouve pas dans 6, on va y aller dans 11. 2 Corinthiens 6. Voilà, 2 Corinthiens 6, verset 10. Mais si on veut lire un peu le contexte, c'est mieux qu'on commence à partir du verset 4.
2 Corinthiens 6, 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédant toutes choses.
Voilà ce que le frère Paul dit. Il dit, mais on est regardé comme n'ayant rien. Parce que dans tout ce qu'on dit là, une petite voix va dire, mais oui, mais là, vous n'arrivez même pas à acheter un bâtiment. Vous n'avez, qu'est-ce que vous avez? Et puis, il peut nous parler individuellement. Oui, mais toi, ce soir, est-ce que tu vas bien manger déjà? Et puis, tout ce que tu veux, tout ce que nous voulons. Mais bien-aimé, l'apôtre dit, nous sommes regardés comme n'ayant rien, mais nous en enrichissons plusieurs. Par nos prières, par nos conseils, nous rendons d'autres personnes riches. Par nos prédications, les gens appliquent. Et eux, ils deviennent riches parce que c'est comme ça que Dieu les conduit, eux, mais à travers le travail que nous faisons de prières, de paroles, de conseils, les gens, eux, ils deviennent riches. Et il dit, toujours dans ce même verset, comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses, puisque notre Père possède tout, l'univers est à lui, donc tout est à nous. Même si nous semblons ne pas voir, c'est faux. Et c'est là le piège, c'est là le piège du christianisme d'aujourd'hui. Le diable a titillé les chrétiens pour les pousser à vivre ces versets, à vivre, voilà, certains versets par le toucher physique. C'est-à-dire que Dieu me promet, je serai le premier et non le dernier. On ne manquera de rien. Et comme on dit, nous possédons toutes choses. Le diable veut que tu les possèdes physiquement comme ça, comme les païens. Non. Paul dit, nous sommes riches. C'est pas quelque chose que nous serons. Et souvent, le diable a dit aux jeunes serviteurs, au début, tu commences pauvre, tu seras béni plus tard. C'est faux, on est béni dès le début parce qu'on est des enfants du papa qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes riches, ce n'est pas pour un jour futur. Si dans les jours futurs, on touche le physique, c'est le parcours de Dieu pour des objectifs. Mais ce n'est pas que maintenant nous sommes pauvres et nous serons riches plus tard. Non, nous sommes déjà riches. Nous sommes plutôt regardés comme pauvres. Mais un vrai chrétien doit entrer dans la dimension de l'invisible. Réaliser comme le frère Paul que tout ce qui est à notre Père tout ce qui est sur la terre, les diamants partout. C'est à nous, comme disait Richard Rembrandt en prison, pendant que lui il mangeait moins bien qu'un cochon, il bénissait le Seigneur pour le bon repas que le chrétien américain prenait. Parce qu'il considérait ça comme si c'était lui-même qui mangeait ce bon repas-là du chrétien américain. Parce que c'est son frère, c'est sa famille. Il n'attend pas de bénir le Seigneur lorsque lui, il aura la belle omelette, lardon. Non, il bénit déjà le Seigneur pour ce que le chrétien américain mange. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est la richesse de la famille. Bien-aimé, n'écoutez pas les promesses comme quoi, les fausses promesses comme quoi, mais tu seras riche plus tard. Non, tu es riche. Tu es propriétaire maintenant. Ce n'est pas plus tard. Plus tard, oui, il peut se faire que tu le deviennes selon les humains, mais c'est lié à un objectif de Dieu. C'est ça qui fait que beaucoup, maintenant, quand cette richesse physique vient, ils deviennent fous. Ils sortent de la parole de Dieu. Parce que, au lieu de comprendre que ça arrive maintenant pour un objectif, ils croient que c'est leur moment de vivre le paradis sur terre, c'est faux. Le paradis sur le ciel. Sur terre, nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Aujourd'hui, j'ai 10 euros dans le compte bancaire. Dans 5 ans, j'ai 15 millions. Je ne dois pas me dire, maintenant c'est mon temps. Non, tu dois te dire, à quoi doivent servir ces 15 millions pour la gloire de Dieu? Pourquoi il me les a donnés? Parce que nous aurons au ciel une des réjouissances éternelles, bien-aimés. Nous sommes dès maintenant riches. Nous sommes dès maintenant premiers. Ne cherche bien... Et si ça se concrétise humainement, gloire à Dieu. Si ça ne se concrétise pas, ça ne change rien. Voilà comment on doit voir les choses. Nous allons finir avec la lettre Tav.
Verset 169. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements.
Amen, amen. Donc finalement, ce sont les commandements de Dieu qui nous rattachent à lui. Hein, quand il ne suffit pas seulement de prier, il faut être rattaché à Dieu par rapport à ses commandements, à ses promesses, bref, à sa parole. La prière et la parole va ensemble. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Donc le cri, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Voilà. La prière, les supplications, tout ça doit se faire en coordination avec la parole. Pas juste parler, crier. Et beaucoup le font. Je vous ai parlé de cet exemple où le monsieur-là, il est en train de manger et il met sa saleté sur le visage des gens comme bénédiction. Voilà. En leur manière, ils cherchent Dieu comme ça. Ils crient, mais c'est tout complètement faux. C'est en dehors de la parole. Les catholiques font des neuvaines, ils font des 40, bon, écoute, 40, je vous salue Marie, et 15, notre Père. Un tel, 20, je vous salue Marie. Mais ils font, mais ce n'est pas selon la parole. Il faut que les cris et les prières soient en coordination avec la parole de Dieu. Voilà, n'oublions pas cela et tout ça finira par la louange à Dieu. Le psaume 119 est magnifique par rapport à la parole. Quand on lit ce psaume, on voit la parole autrement. On entre dans une autre dimension avec la parole de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous amène plus loin avec toi. Merci de nous donner l'assurance en elle, l'assurance qui fera que nous utilisions ta parole à tout moment. Cette assurance qu'elle est la vérité. Que, comme on a dit, que nous voyons nos richesses ou pas, que nous soyons humainement en première place ou pas, nous devons croire que ta parole dit la vérité. Nous le sommes et c'est ainsi, Seigneur. Nous devons croire en ta parole, dans tout ce qu'elle nous donne comme promesse, comme commandement, comme instruction, comme ordonnance. Tout ça fait partie d'un même régime. Lorsqu'on applique le tout, on est béni dans le tout. Aide-nous à entrer dans cela, à ne pas choisir que les promesses et à négliger les ordres, les instructions, à tout prendre, à ne pas choisir que des paroles de sagesse et négliger les paroles de mission. Non, à tout prendre, Seigneur. Merci pour ta paix et ta gloire au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc.